Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Et on continue avec le numéro, le grand 3 du catéchisme de l'Église catholique au numéro 830 et 831. Et dans le numéro 830, on peut encore lire que Jésus a voulu que dans l'Église catholique soit la plénitude des moyens de salut. Et il est écrit que cette plénitude des moyens de salut, c'est la confession de foi droite et complète, la vie sacramentelle intégrale et le ministère ordonné dans la succession apostolique. Alors j'ai deux questions. Ça veut dire, est-ce que Jésus a voulu donc la vie sacramentelle, a voulu le ministère ordonné, la foi évidemment, mais... Et mon autre question, c'est qu'est-ce que c'est que cette succession apostolique ?
Alors, la succession apostolique, donc, c'est le fait que les apôtres ont ressenti qu'ils allaient disparaître parce que leur vie était déterminée par un temps précis. Ils ont compris que le Christ n'arriverait pas immédiatement dans ce qui était promis, ce qu'on appelle la fin des temps, la parousie. Et ils ont senti l'obligation de transmettre en quelque sorte leur autorité à ceux qui seraient les chefs constitués des églises particulières qu'ils avaient fondées. Et on le voit dans les lettres de saint Paul, il institue des frères dans la vie de l'église pour diriger les communautés. Et c'est ça qui constitue en quelque sorte la succession apostolique depuis les origines. Irénée en donne les listes très émouvantes pour le siège de Saint-Pierre, dans la succession de Saint-Pierre. Il donne la liste jusqu'à son temps, vers les années 200. Donc très vite, cette succession apostolique a permis de donner, je dirais, un squelette à l'Église. Mais le squelette ne suffit pas, il ne suffit pas de chef pour que les choses soient, il faut aussi un corps. Et donc, qu'est-ce qui fait le corps ? Ben, ce sont tous ces moyens de salut administrés à ceux qui se rapprochent de Jésus, une confession de foi droite et complète, une vie sacramentelle, et tous les ministres subordonnés aux successeurs des apôtres qui font le travail concret, parce que les sacrements, n'oublions jamais, ne sont pas donnés autrement qu'individuellement. On ne reçoit qu'un sacrement, un à un, et individuellement. Je ne peux pas me faire baptiser pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas recevoir la confirmation pour quelqu'un d'autre. C'est un tel qui le reçoit, et il faut donc que ça passe de bouche à oreille, au niveau de l'enseignement, au niveau des différents moyens qui sont donnés. « Fides ex auditu », dit saint Paul, « la foi vient de ce que l'on... » n'entend la foi. Alors on peut être évidemment plusieurs dans une salle, entendre une prédication, être touché à plusieurs, mais après, au moment où on passe au sacrement, et non plus seulement à l'intentionnalité de la parole de Dieu, mais à la réalité des sacrements, il faut que ça se fasse un à un.
Et Jésus a voulu ça, alors, parce qu'on dit... alors souvent, certaines personnes disent « Jésus n'a pas voulu toute cette structure, tous ces sacrements, c'est l'Église qui a inventé tout ça ». Mais là, il semble qu'au numéro 830, on rappelle que Jésus a voulu ça pour son Église.
Jésus a voulu ça certainement pour son Église, puisqu'il a nommé individuellement les 12, en les nommant avec un prénom précis, c'est-à-dire que ce n'était pas... j'en nomme quelques-uns pour que ça se passe bien, mais il a nommé Pierre, Jacques, Jean, etc. Et il les a nommés pour que nous comprenions bien qu'il s'agissait d'une sorte de prolongement de son incarnation. L'Église, c'est Jésus prolongé, actualisé. Et du coup, il faut bien cela. Et le catéchisme cite très volontiers Lumen Gentium numéro 13, « Tous les hommes sont appelés à faire partie du peuple de Dieu. C'est pourquoi ce peuple demeurant un et unique est destiné à se dilater aux dimensions de l'univers entier et à toute la suite des siècles pour que s'accomplisse ce que s'est proposé la volonté de Dieu, créant à l'origine la nature humaine dans l'unité et décidant de rassembler enfin dans l'unité ses fils dispersés. Ce caractère d'universalité qui brille sur le peuple de Dieu est un don du Seigneur lui-même, grâce auquel l'Église catholique efficacement et perpétuellement tend à récapituler l'humanité entière avec tout ce qu'elle comporte de bien sous le Christ chef dans l'unité de son esprit. C'est extrêmement bien, je dirais, exprimé pour comprendre tous ces liens qui sont sans cesse à refaire, parce que si c'est perpétuellement, c'est de génération en génération, et les générations passent, les anciens décèdent, les jeunes naissent, ben, il faut tout le temps tout refaire. C'est pas comme si c'était un acquis charnel ethnique qui ferait qu'on était chrétien de génération en génération. On le devient parce qu'on reçoit le baptême, à condition que les parents veuillent transmettre ce trésor qui leur a été confié.
Et, mais qu'est-ce que ça veut dire Dieu veut rassembler dans l'unité tout le genre humain? C'est dans le sens, ce serait dans le sens où on n'est pas uni et qu'il voudrait faire en sorte qu'on ait une même communion tous.
Alors, les récits du début de la Genèse montrent bien que les hommes se sont rapidement désunis, comme le récit de la tour de Babel, ou d'autres récits qui montrent que l'homme, sous l'effet du péché des origines, avec sa transmission en forme de péché originel, qui touche la nature humaine, qui la corrompt, fait que les hommes sont naturellement divisés, que naturellement ils ont tendance à s'opposer les uns aux autres, et donc l'unité, loin d'être un donné, je dirais, naturel, est une réalité sans cesse à rechercher, à recomposer. Et saint Ignace d'Antioche aimait dire à son ami évêque à Smyrne, saint Polycarpe, « Préoccupe-toi de l'unité, il n'y a rien de meilleur. »
Oui. Et une fois que toute l'humanité sera rassemblée dans la charité, dans une communion avec Dieu, on pourra dire que ça, c'est l'Église catholique au complet, dans sa finalité.
Exactement. Au ciel, nous avons déjà cette finalité qui est atteinte, puisque tous ceux qui sont au ciel ont découvert cette plénitude, se sont rassemblés autour du Christ, tête de son Église, et assemblant dans son corps tous ceux qui entrent par cette porte étroite de la foi et de tout ce qui est nécessaire avec elle, l'espérance et la charité. À partir du moment où les hommes de bonne volonté se laissent convertir par le Saint-Esprit et renoncent à leurs péchés, ils peuvent passer la porte de la foi.
Oui. Et alors, Dieu semble vouloir que les chrétiens appellent des nouveaux à rentrer dans cette Église, partent en mission pour annoncer l'Évangile et pour encourager les gens à trouver la foi et surtout le chemin de l'Église catholique. Et pourquoi Dieu veut qu'on fasse, nous, ce travail de rassemblement, alors que lui-même pourrait le faire très facilement?
Alors, Jésus s'est montré comme exemple, et l'exemplarité joue un rôle considérable dans les œuvres de Dieu, parce que Dieu n'est pas seulement la cause efficiente et la cause finale, il est en même temps la détermination, et cette détermination passe par l'exemplarité. Or, le Christ, pour rassembler ceux qui étaient dispersés, a subi sa passion, a subi en même temps que sa mort et sa résurrection, le souci d'annoncer cette bonne nouvelle qui fait l'unité à tous les peuples. Jésus le dit dans la finale de saint Matthieu chapitre 28, « Allez, et de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant tout ce que je vous ai prescrit. » Donc il y a un enseignement qui accompagne ce ritualisme des sacrements, en particulier du baptême, là, qui est explicitement donné dans cette annonce finale de saint Matthieu.
Donc on invite tous nos auditeurs à essayer d'être attentifs à tendre la main le plus largement possible, à essayer de faire découvrir Jésus, faire découvrir l'Église catholique à ceux avec qui ils travaillent, avec leur famille, avec tous ceux qui sont autour d'eux.
Exactement. Et saint Dominique avait ce cri dans son cœur, que deviendront les pécheurs? C'est-à-dire, il faut avoir cette inquiétude, je dirais, du salut de tous et avoir toujours la main sur le cœur pour témoigner de l'amour incommensurable de Dieu qui est amour. Saint Dominique avait toujours sur son cœur l'évangile de saint Matthieu et les lettres de saint Paul. Mais d'une certaine manière, ce serait pas mal que tout bon chrétien ait sur lui ce minimum pour pouvoir le distribuer à droite et à gauche. Il y a des petites éditions de poche qui sont faciles, ou des éditions catéchétiques, la Foi Express ou autres, qui permettent comme ça de distribuer facilement le contenu de la foi à ceux qui nous entourent.
Pour qu'ils puissent recevoir ces vérités et puis se greffer à cette communion avec Dieu.
Et y adhérer. Alors rien ne se fait sans ces causes secondes, comme on les appelle, que nous acceptons d'être, comme des serviteurs inutiles. C'est-à-dire, nous savons bien que c'est Dieu qui fait tout, mais nous le faisons comme cause seconde, c'est-à-dire Dieu veut que nous passions notre vie à prier pour cet agrandissement du corps du Christ selon sa volonté, et cela se réalise dans la mesure où nous acceptons nous aussi d'être ses serviteurs inutiles au service de ce corps.
Et ce mouvement, il doit avoir lieu, on le lit au numéro 830, jusqu'à la parousie. Ça veut dire quoi, la parousie ?
Alors, la parousie, eh bien, c'est la fin des temps, c'est quand le Christ reviendra dans la gloire, nous le disons dans le credo, et il reviendra dans la gloire. C'est-à-dire, nous annonçons clairement que le Christ est venu et qu'il viendra encore, non plus dans, je dirais, la faiblesse de la chair, mais dans la gloire du Christ ressuscité, où il dressera ce grand jugement final en mettant à sa droite tous les bénis du Père et à sa gauche ceux qui malheureusement n'auront pas écouté la voix de la conversion.
Merci frère Edouard.
À bientôt.
À bientôt.